Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce barbecue foot du 29 avril. Arnautovic, au mic, pour vous servir. Entouré ce soir, non pas de deux chroniqueurs, mais de quatre avec un retour. Il revient avec les beaux jours, normal pour
Eh
un gars
oui,
du Sud. Eh ben,
c'est
c'est notre
ça.
Marley à qui à nous. Ça va, mon Marley?
Bah écoute, ouais, je me suis remis d'une terrible opération à la mâchoire et j'ai même rencontré pendant ma convalescence ce bon vieux Oussem Loussaïef qui bosse sur une radio concurrente, RMC, je ne sais pas si vous connaissez. Et je lui ai parlé de Radio Merguez. Est-ce qu'il viendra? Ça,
Il a
autre
dit qu'il
chose.
connaissait pas.
Il connaît pas, mais il m'a dit qu'il allait s'y intéresser.
Cet homme est diplomatique, cet homme fait de la radio. Cet homme
C'est
ira
beau.
loin. Et en plus
Voilà,
de
de
Marley
retour.
Hackey, bah c'est nos deux piliers qu'on appelle avec Christophe. En premier lieu, Jérôme, le roi du stade. Qui
Oui, mais.
vient débriefer ce week-end alors qu'il en a gros, comme dirait
Ah oui, non,
Christophe.
mais bon, oui.
Ouais.
Bonsoir. Oui, non, bah, c'est. Oui, le roi du stade, là, c'était pas Rennes. La reine, enfin le roi du stade, voilà. Donc on va en parler, mais oui, ça fait mal, ça fait mal. Je suis matinal, mais là j'ai mal.
C'est ça.
Mal.
Et il nous revient de ses petites vacances dans un lieu qui fait plus du rugby que du football. Et il ne s'est pas fait mettre en geôle par le père Fouras, notre
Exactement.
Carlos Miser.
Ah.
Ça va, Carlos?
Bonjour, bonsoir. Bon appétit si vous nous écoutez pendant le repas. Et puis, je suis revenu de mes terres charentaises. J'ai été voir mes serfs un peu là-bas, savoir comment ils travaillaient un peu. Et j'ai vu que ça travaillait pas mal. On va commencer à faire quelques travaux au Fort Boyard, parce que ça commence à être un peu plus compliqué par là-bas. Mais mon équipe de télévision va apparemment remédier à tout ça et on va pouvoir continuer le jeu.
Ouais,
Alors moi, il n'y a plus de
j'ai
tigre. Il n'y a plus de tigre au fond.
Exactement. C'est des tigres en image de synthèse qui sont bien
Ah, c'est
dégueulasses.
ridicule. Mais bon, au moins, il n'y a pas de. Non, non, mais
Qui
il n'y a pas
sont
de mauvais
dignes de la télé autrichienne
animaux.
des années 80.
Voilà, c'est tout de suite, ça attaque sur l'Autriche,
Oh.
alors que ce pauvre Jérôme. Allez, on va essayer quand même de ménager un peu ce soir, parce que
Oui, s'il vous plaît.
lui à
Soyez
moi, il aura.
indulgents avec un homme blessé. Deux fois d'ailleurs ce week-end. Enfin, cette semaine. Deux fois. Parce que si vous voyez dans le fond, là c'est à l'envers. Mais parce que l'équipe est à l'envers aussi. Donc, voilà.
Ouais, elle bataillait pour le titre et elle se
Ben
retrouve
oui.
à 5 points de City.
Mais elle a un nouvel entraîneur. Connu.
C'est qui?
Eh ben c'est un chauve hollandais. Comme quand on cherche un
Ah oui.
entraîneur, c'est toi qui même qui l'as dit. Hein, quand on cherche un entraîneur, ben on prend un chauve hollandais qui est pas connu. Voilà,
C'était
c'est qui?
l'entraîneur du
L'entraîneur du
Feyenoord.
Feyenoord.
Ouais, du Feyenoord.
Arne, je sais plus quoi.
Ah bon, en plus c'est Arnaud, c'est le Arnaud
Voilà, donc c'est
version
un
du Nord,
Arnaud
quoi.
qui n'a pas de cheveux, mais c'est pas le nôtre.
Ah.
Il n'a pas cette belle barbe que tu as. Que tu.
Non.
Mais au moins,
Alors.
voilà, c'est. On a trouvé le successeur à Jürgen.
Bon bah très
Jürgen.
bien. En tout cas, on lui souhaite la même chose, même s'il faut se souvenir quand même des 6 premiers mois de Jürgen Klopp, où si le Jürgen avait entraîné en Ligue 1, il se serait fait virer comme un malpropre. On sait être patient en Angleterre, au moins on peut leur accorder ça, tout du moins
Oui, bah, t'en as un autre chauve
sur les
hollandais
bons
qui
chemins.
a un peu de mal aussi, hein, Ter Stegen à Manchester United, mais.
Non,
Ter
c'est
Stegen,
Tenag.
non, c'est le gardien
Ter
de
Stegen,
Barcelone.
c'est le gardien allemand du
Ah, mince,
Barça.
qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, d'accord, ok. Oui, je suis troublé. Je suis, voilà. Pardon.
Voilà,
Qu'est-ce
allez.
que je dis? Mais c'est un chauve aussi.
Tout à fait. On est parti pour ce barbecue. Le
Oui,
programme est
démarrer,
simple,
oui.
hein. Notre Ligue 1 pour la J31, la même
Eh, avec
J31.
modération, hein.
Ah oui, moi sur mon maillot il y a marqué Tourtelle, mais apparemment c'est pas ce que Jérôme il a dans son verre. Donc
Non.
si vous nous écoutez en podcast, hein, c'est rien. Par contre, si
Jérôme
vous
est
nous
en
regardez,
oublié.
on a des petites nouveautés. On va projeter des petites choses Il y aura des stats, des probabilités.
Oh la vache.
Avec des gaussiennes et tout.
C'est la start-up Radio Merguez. Là, on a des slides, on a des.
Vous connaissez mon amour pour les chiffres. Hein. Donc là, il y aura bah du ouais. XG, du expected points et tout. Non, oh, pro de stats, tu la stats. Je sais que vous aimez aussi notre côté où on parle avec romantisme, surtout du côté d'Auxerre. On est parti et donc après ce J31 qui s'est emballé ce week-end, on fera une petite preview de nos clubs européens sur les demi qui se déroulent mercredi pour Paris et jeudi pour l'OM. On leur souhaite le même destin aux deux. Allez, sans plus attendre, on est parti sur la J31 qui a accouché d'un magnifique week-end. En tout cas, il y a eu 40 buts. Alors, je vous cache pas que même nous, on était perdus. Il a fallu qu'on se mette nos quatre cerveaux et qu'on recompte 12 fois pour bien se rendre compte qu'on arrivait à 40. Une stat aussi, c'est que c'était pas arrivé depuis les années 60, mais les 18 clubs de Ligue 1 ont marqué. Tous les clubs ont marqué un but dans cette journée, ce qui n'était donc pas arrivé depuis un peu moins de 60 ans. Donc c'est beau, cette Ligue 1 se débride. Donc une quarantaine de buts avec des scores fleuves. Et je vais commencer par celui qui a été le plus productif de la saison, avec 9 buts au total, des renversements de situation dans tous les sens. Je veux bien parler du Rennes-Brest. Pour le plus grand plaisir de notre Jérôme.
Parce que de toute façon, c'est la Bretagne.
Hein. Ouais, c'est sûr, ouais, hein, ouais, c'est totalement sweet. Ouais, merci. Là, j'en peux plus de ça.
Donc le match part super bien pour nos amis rennais, avec un petit doublé de Kalimuendo en 10 minutes. Les Brestois n'ont pas forcément le temps de gamberger parce que Steve Mounier, d'un but de la tête, forcément, réduit le score dès la 10e. Après, il faut attendre la seconde mi-temps pour que ça s'emballe. Avec
la reprise.
Un petit but contre son camp d'Omari. J'ai envie de te dire que c'est un classique.
On va parler de ce monsieur, oui.
C'est un classique cette saison. Satriano, il redonne l'avantage à Brest. Madi Camara, il remet le quatrième. Et là, on se dit que c'est finito. Brest va sûrement aller vers une victoire assez tranquille. Et là, une grosse menace d'Arthur Théat qui réduit à nouveau le score. Un coup franc superbement tiré et dévié par Martin Terrier. Ah,
belle combinaison, le Bourigeau Terrier dont on était habitué il y a 2 ans.
Exactement. Voilà. Donc là, 4-4, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il reste une dizaine de minutes de jeu, ça peut pencher d'un côté que de l'autre, peut-être plus du côté rennais d'ailleurs. Une victoire rennaise. Et là, patatras, pareil, un coup franc excentré.
Une faute bête de Lefebvre. Ouais.
Et Lilian Brassier qui vient placer sa tête. Alors, ce n'était pas le festival du slip pour les gardiens. Hein. D'ailleurs, Carlos, si tu veux nous redonner la petite stat qui ont montré que ce n'était pas terrible. Alors,
sur mon application de SofaScore, en fait, il y a une stat maintenant un peu nouvelle sur les arrêts gardiens et en fait, qui nous marque. Qui disent qu'en fait, les buts évités, et normalement, si admettons on a 2-2 et que le score est de buts évités de 1-1 pour les gardiens, ça veut dire que le score aurait dû être de 3-3. Mais si le score est de moins 1, vous voulez dire que le score aurait dû être de 1 partout. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais la statistique montre que, en fait, le gardien de Brest aurait dû éviter un des 4 buts encaissés, et surtout Mandanda aurait dû éviter 2 des 5 buts encaissés. Donc, selon, on va dire, une forte probabilité, on aurait dû avoir 3-3 plutôt que 5-4. Et c'est vrai que Mandanda, c'était pas sa soirée. Quoi.
Moi, je, enfin, au-delà des statistiques, c'est comment dire, là, sur le premier but de, sur la tête de Mounier. Enfin, moi, j'en veux plus à Omari sur la tête, sur le premier but de Mounier que en fait que son but contre son camp. Enfin, si, j'en veux aussi, mais parce que ce joueur n'est pas, non, mais ce joueur n'est pas professionnel. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, je vous avais raconté l'anecdote hein, du. Vous la connaissez, qui s'est pas réveillé, qui s'était pas réveillé le matin de la demi-finale, alors que l'équipe attendait la Puyverdière et voilà que le bus l'a récupéré en passant pour aller à la gare, qu'il avait été sanctionné que financièrement parce qu'il n'y avait plus de sanctions, hein. Donc il a été titularisé le soir du match contre Paris. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est quoi le niveau d'implication d'un joueur qui ne se réveille pas le jour d'une demi-finale, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et là, ben, c'est pareil. Sur la tête de Mounier. OK, Mounier est bon de la tête. Mais tu dois jamais avoir, ton attaquant dans ton dos qui a tout son temps pour mettre sa tête. Enfin, le placement est nul. À côté de lui, on a Guéladoué. Donc, franchement, voilà. Les problèmes qu'on avait soulevés dès le début de saison, on en avait parlé dès le mois d'août, dès le mois de septembre, qu'on peut pas prétendre à quoi que ce soit avec cette défense. Quoi. Moi, j'ai encore un peu de. Je comprends pas que Théâtre, lui, soit sanctionné parce qu'il il est apparemment. Enfin. Il avait dit sa façon de penser et lui par contre on l'avait mis sur le banc parce que voilà, un joueur qui se réveille pas pour une demi-finale, on le titularise le soir, mais un joueur qui parle dans le vestiaire, qui dit que ça va pas du tout, ben on le met sur le banc. Enfin, c'est une gestion de l'effectif complètement ridicule. Et puis voilà, les jeunes ne sont pas au niveau, mais c'est normal, ils sont pas accompagnés. Un gars comme Omari, on peut pas le mettre titulaire, même si il est plus si jeune que ça, mais il a 23, 24 même maintenant. Mais il a pas le, comment dire, c'est pas un patron de défense. Théâtre, qui est plus jeune que lui, mais qui a quand même vachement plus d'expérience, déjà au niveau international. Donc, on sent plus l'âme d'un patron qu'Omari. Enfin, Omari, il est jamais à ce qu'il fait, quoi. Enfin, il y a des défauts de concentration hallucinants. Qui sont pas compatibles avec la carrière ce qu'on demande à un joueur pro. Enfin, ça m'hallucine, quoi, qu'on ait donné autant qu'on ait fait confiance à ce joueur et de lui faire croire qu'il est on lui a fait croire qu'il pouvait si l'entraîneur lui dit c'est toi le titulaire et c'est toi qu'on veut continuer avec toi. Bah, c'est sûr que le gars il est en pleine confiance, mais il est pas au niveau. Moi, je vois pas. Et en plus, le problème avec lui, c'est qu'il va même pas pouvoir le vendre. Enfin, qui va vouloir acheter un joueur comme ça, qui fait bourde sur bourde, qui est pas concentré, enfin, qui est pas professionnel dans son attitude. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc après, il y a pas que lui. Hein. Bon, Belossian aussi, je trouve qu'il est. Les choix de Stéphane. Les choix de Stéphane de laisser ou sur le banc, alors que bon, ça aurait peut-être, même s'il est pas non plus très bon de la tête, mais ça aurait peut-être été physiquement par rapport au grand Brestois, ça aurait peut-être été un peu plus cohérent qu'Omari. Laisser Truffert, ben, voilà, pourquoi mettre Belossian, comme dirait notre ami Carlos, pourquoi mettre Belossian à gauche alors que c'est pas son poste.
Vous revenez toujours vers moi au bout d'un moment.
Truffert, c'est quand même justement en défense, c'est le joueur qui cette saison a quand même s'il n'a pas été extraordinaire, c'est quand même un joueur qui a été toujours un peu plus ou moins constant, enfin qui a pas fait des bourdes énormes, qui a pas toujours été très bon, mais voilà. Enfin, moi je comprends pas les choix de Stéphane. Je comprends plus. De toute façon, Florian Maurice, je sais plus du tout ce qu'il veut. Et puis, celui qui m'agace aussi, c'est le président Cloarec, qui apparemment son portrait dans l'équipe, mais ce type.
Allez, on fait tout le monde. Allez.
Ah ben non, mais là, moi, enfin, les joueurs à la rigueur, moi je me dis à ce niveau-là, c'est plus les joueurs qui sont en cause. C'est pas comme dans une équipe où les joueurs abandonneraient l'entraîneur. Là, c'est plus moi je pense que plus les joueurs sont abandonnés par le staff que le staff qui est abandonné par les joueurs. Enfin, on envoie toujours Bourigeaud là pour en zone mixte pour dire bah voilà, lui il a dit on a été con, on a été imbécile, voilà, super, merci, mais il est où le président est-ce qu'il tape du poing sur la table, est-ce qu'il dit quelque chose? Enfin, moi je trouve que ce joueur, enfin c'est encore un de la galaxie Pinot qui n'a aucune personnalité pour moi, qui n'a pas une personnalité faite pour le foot. On avait
des joueurs qui sont sur le terrain quand même, hein, qui doivent, comme il avait dit Bourigeaud là en interview de fin de match,
on est
des trous du cul, il a dit, ou un truc comme ça, et enfin vraiment c'était à eux aussi de se sortir de ça.
Oui, bah là Bourigeaud, voilà, et puis il a cité personne, mais on sentait bien qu'il visait voilà. Mais moi, je dis aussi le président, parce que il a dit oui à tout ce qu'a signé Florian Maurice. C'est aussi un président de club de calmer un directeur sportif qui veut acheter des joueurs à 15-20 millions. Et c'est à lui de dire non. Voilà, c'est quand même lui qui, enfin, c'est pas lui qui signe l'échec, mais c'est lui qui donne l'autorisation ou pas de, voilà. Lui, il fait partie de la galaxie Pinot, donc on a eu une période donc avec les temps que bon je porte pas du tout dans mon cœur, mais qui quand même connaît le football. On a eu Olvek aussi, bon, là on sait pourquoi il est parti, hein, c'est malheureux, et bon on a salué son départ, enfin dire sa mort, mais pour moi c'est pas un président de football, quoi. C'est pas un président de club de Ligue 1, enfin d'un club de Ligue 1 qui a des prétentions de très haut niveau, parce que Rennes veut prétendre quand même à être parmi sur le podium, parmi les trois ou quatre premiers.
Après, à l'instar de Rennes, je pense que tu peux faire sur ce constat sur pas mal de clubs où justement on peut remontrer rapidement le classement si vous nous regardez ou si vous regardez en replay la vidéo sur YouTube ou autre. Il y a quand même pas mal de clubs qui, on va dire, entre même Lille, finalement, qu'on peut attendre un petit peu plus haut, mais tu as quand même les Nice, Lens, Marseille, Lyon, Rennes. Voilà, tout ça, ça fait partie des gros clubs aujourd'hui. Français, ils se battent pour la sixième et la septième place, quoi.
Oui, mais tu prends quand même Lyon et Marseille aussi un petit peu quand même. Lyon avec l'histoire du rachat-vente, voilà, ça a été compliqué quand même. Marseille, on sait aussi que
c'est compliqué, mais les mecs, ils ont pas le budget de Brest, hein.
Ouais, c'est sûr.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, à Rennes, il n'y a pas ce côté crise. Le club n'est pas en crise. À Lyon, quand même, ils ont vécu une crise qu'ils n'ont pas connue.
Rennes n'est pas en crise parce que, comme finalement, peut-être que les Rennais, même les supporters Rennais, sont désabusés parce que finalement, les saisons se ressemblent.
Oui, et puis qu'on a l'impression, mais moi, c'est ça qui m'agace aussi, c'est que on a l'impression que les joueurs sont dans leur cocon, là, ils sont choyés, ils sont bien. Il n'y a pas un joueur qui dira qu'il est malheureux à Rennes. Donc, s'il y a Matic, alors justement, Matic était.
Ah oui, c'est vrai.
Matic, c'est la grande fierté, c'était la grande fierté du président Kolarek. Parce que c'est lui, en fait, via ses réseaux, qu'il avait fait signer. Ben, super, merci, quoi. On a vu ce que ça a donné. Alors, il était très fier, mais donc, enfin, c'est, il y a un moment donné, si ce club veut vraiment aller plus haut, voilà. Ben, on a tous les ans, on a une équipe comme ça qui vient titiller une équipe surprise. L'année dernière, c'était Lens. Les années précédentes, on a eu Lille. On a eu, bon, on remonte encore plus loin, Monaco, Montpellier, enfin, il y a toujours une équipe qu'on n'attend pas vraiment. Non, on n'attendait pas à ce niveau-là. Le Lille de Galtier, on n'attendait pas à ce niveau-là. Voilà, presque pareil. Mais on dit toujours, ah, les Rennais cette année, ça va être la bonne. Et puis finalement.
C'est un petit peu le souci que rencontre le foot français, mais on vous renverra vers la dernière vidéo de Romain Molina qui fait le point sur l'endettement, enfin, sous
oui,
le
oui.
point, la gestion des clubs français. Où,
le fameux crédit à 18%, je ne sais pas combien. Là, enfin,
Avant les ventes de joueurs, il n'y a que. L'année dernière, il n'y avait que deux clubs
et Ajaccio qui sont.
Et Ajaccio qui était positif avant la vente des joueurs.
Ah oui.
Donc quasiment tous les clubs sont en déficit structurel. Mmh. Il y en a même certains qui ont des masses salariales supérieures au budget du club.
Bordeaux.
Donc finalement, c'est quand même compliqué de t'en sortir. Je dis pas que Rennes est dans ce cas-là.
Ils sont aussi, je crois qu'il a pointé. Il n'y a que Paris, en fait, qui, à ce niveau-là, s'en sort le mieux. Mais...
Bah, nous, Paris, c'est en Ligue 1. Le truc, c'est que... Enfin, je dis en Ligue 1.
Et vu que tu as un budget énorme, c'est plus facile.
C'est même pas que tu as un budget énorme. C'est que tu as quelqu'un, tu as le garant des comptes, qui a un compte en banque avec le sigle infini dessus. Tu sais, tu as le cheat code crédit illimité. Donc nous, pour le coup, on est la seule équipe qui peut garder ses joueurs. On a même surnommé Paris le prison Saint-Germain, et c'est pas pour rien, parce que un mec veut partir, t'as n'importe quel grand club européen qui débarque. Mbappé, on a refusé 180 millions du Real il y a 2 ans. Qui dans le même, quasiment dans le monde, à part peut-être City, à part parce qu'ils ont aussi un crédit illimité derrière. Newcastle, parce qu'ils ont aussi les Saoudiens derrière, et autres très très grands clubs, qui peut refuser. Mais même le Real Madrid. Real Madrid, t'as Paris qui vient avec 180 millions sur Vinicius. Mais Florentino Pérez, il met Vinicius dans l'avion avec un coup de pied au miche pour ce prix-là. Il y a vraiment, nous, c'est vraiment particulier. Tous les autres clubs français ne peuvent pas lutter. Et finalement, ils sont obligés de vendre leurs joueurs. Donc, tu fais une belle saison. Moi, ce que j'ai peur, j'applaudis Brest qui va sûrement, alors, à savoir, est-ce qu'ils vont finir deuxième, troisième, quatrième, parce que pour le coup, leur place en Ligue des Champions ou au moins pour préliminaire de Ligue des Champions est quasiment entérinée. Parce que bon, Nice qui est à 5 points derrière, il reste 9 points à prendre. Ça serait quand même très très compliqué pour. Ça serait dur même pour les Brestois s'ils venaient à glisser, même si Nice, pour le coup, fait une bonne fin de saison. Ils se reprennent assez bien. Mais aujourd'hui, dire que Brest, c'est sûr que Lesmelou n'est plus là à la rentrée. Brassier, est-ce qu'il sera encore là? Est-ce que même Bizot sera encore dans les buts? Enfin, c'est des équipes qui ne sont pas faites finalement pour continuer, parce que ça sera très compliqué. Eux, à la limite, ils n'ont pas beaucoup dépassé, donc ils vont avoir l'argent de la Ligue des Champions qui va tomber. Leur budget peut doubler. Donc tu peux essayer de remettre un peu, mais Brest, finalement, leur lot quotidien.
Ouais, après, ils doivent louer un stade aussi. Bon, ils doivent louer un stade.
Ouais, c'est ça. Mais structurellement, ils ne sont pas taillés pour le haut niveau, c'est clair. C'est clair.
Et en fait, sur le truc de l'UEFA, c'est même plus loin, c'est qu'ils pourraient accueillir à Francis Leblay, mais il n'y a qu'une seule tribune qui est homologuée, qui est en béton. Le reste, c'est en structure tubulaire. Et l'UEFA ne veut pas de structures tubulaires, même s'il y a des structures tubulaires qui sont plus résistantes que des gradins en béton.
Oui, mais bon, il y a quand même des passifs.
Voilà.
Et Dieu sait si normalement l'UEFA aime le blé. Hein.
Ouais, c'est ça. Alors, je reprendrai quand même sur.
C'est du plagiat. Hein.
D'accord.
sur cette fameuse histoire de oui, mais bref, c'est des petits, ils vont pas bien lutter en Ligue des Champions et tout. Vous vous souvenez des parcours de Monaco? Alors, je suis désolé, Marlène, mais ferme tes petites oreilles. Marseille, les années précédentes, on peut parler de Lyon, on peut parler de. Enfin, je veux dire, à part cette année, où les. Même Toulouse, tout le monde pensait qu'ils allaient se faire éliminer dès le premier tour. Ils ont réussi à faire un exploit face à Liverpool. Ils sont qualifiés pour les 16e, enfin, quelque part. Moi, j'appelle ça le 16e du final, mais c'est les barrages. Ouais. Ils n'ont pas été aussi ridicules que ça. Enfin, je veux dire, ça a mis une forme de... Comment est-ce que je veux dire ça?
Ouais, mais Toulouse, ils sont en Ligue Europa. Imagine Toulouse en Champions League.
Mais Monaco, ils ont fait quoi sur les premiers tours, les tours préliminaires? Monaco, ils passent jamais. Monaco, à chaque fois, ils changent des équipes tous les ans. Ils essayent de brasser un maximum de fric. Et à chaque fois, on dit, ah oui, mais ben Monaco, ils ne font pas plus que les autres. Enfin, je suis désolé. Les tours préliminaires de ces Marseille cette année. Ben oui, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, Lens, on ne donnait pas bien cher de leur peau. Et ben, regarde ce qu'ils ont réussi à faire.
Mais je pense Lens, en étant chapeau 4, je pense que Gervais Martel, même s'il n'est plus au sein du club lensois, je pense qu'il a dû poser 25 cierges dans l'église d'à côté, parce que le groupe dans lequel il tombe, ok, il y a Arsenal, mais c'est un Séville qui a lutté contre la relégation toute la saison, et le PSV à Eindhoven.
Mais combien d'équipes
en étant chapeau 4.
Combien d'équipes sur la... Enfin, à chaque fois, on disait oui, mais c'est les... Moi, je me souviens toujours, excusez-moi, de ce fameux... on a tiré la... en Coupe du Monde, on a le cul-bord des nouilles. On a tiré la... On devait tout exploser pour la Coupe du Monde 2010. On a vu ce que ça donnait. Ah oui. Moi, maintenant, j'attends de voir. Je me dis, le Brest a excellemment joué cette saison. Ils méritent leur place quelque part en Ligue des Champions. Ils auront peut-être des armes différentes. Eh ben, on verra. Et puis, on verra ce qu'on... Et moi, je pense que ben, c'est aussi... quelque part le mérite du travail au niveau des clubs français.
Enfin, je veux dire... le mérite est là, sauf que derrière c'est plutôt est-ce qu'ils vont déjà avoir les arguments pour garder leurs joueurs, et généralement les arguments c'est pas juste le plaisir d'entendre la musique de la Ligue des Champions, c'est que même avec la saison que fait Brest, Les Smelou, il avait déjà trouvé sa maison à Rennes, hein. Enfin, je caricature.
Je vais te rappeler en fait l'histoire d'un club qui me semble que je connais un petit peu, qui s'appelle Auxerre. On a fait la
qui
dernière
est en train
saison
de perdre à Dunkerque là.
S'il te plaît,
Monsieur Nathan,
soyez courtois.
Marley. Parce qu'il y a 1-0 pour Dunkerque, c'est la mi-temps. Chut. But de Yacine à la 20e minute, c'est quoi ça?
On est toujours premier de Ligue 2. Hein. Sachez-le, ouais. Monsieur.
Oh, laisse-le parler, sinon on n'a pas fini là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Auxerre en Ligue des Champions, la dernière fois qu'ils y sont allés, ils ont affronté le Real, l'AC Milan et l'Ajax. Oui, ben, on n'a pas été. Enfin, je veux dire, c'est aussi des joueurs qui peuvent se. Je pense que. Oui, d'accord, il y a des joueurs qui sont peut-être prévus pour partir, mais ça n'empêche que ça n'enlève pas le mérite.
Je pense que le président brestois, il y a une étiquette à accrocher à l'oreille de tous les joueurs brestois.
Je pense que si tu as un
club espagnol ou un anglais qui arrive et qui met 35 millions sur Brassier, mais il a même pas fini, il a le temps de finir sa phrase, que le mec, il est déjà dans un avion direction le club qui a fait la proposition.
Mais c'est pour tous. Enfin, je veux dire, Monaco, moi, je suis désolé, Monaco, on fait des gorges chaudes de Monaco. Monaco, à chaque tour chaque tour préliminaire,
ça
on va
fait,
voir ce
ça
qu'on
fait
va faire.
Ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas participé à la Ligue des Champions.
Et on va voir ce que ça va donner en phase de poule. Et on va voir ce que ça va donner en phase de poule. Ils vont encore vendre tous leurs meilleurs joueurs. Et ils vont se retrouver encore à avoir une équipe complètement... on va se dire, oh là là, Monaco, Monaco, Monaco. Ils vont mettre 6 mois à réagir. Ils vont se faire éliminer dès le premier tour. Et voilà.
Là, t'as un petit coucou de Dylan hein, qui te dit, j'arrive sur le live, Carlos parle d'Auxerre, arrêtez-le.
Oui, c'est bon, on a compris. Là. Non, mais il parle d'Auxerre pour parler de Monaco, en fait. Enfin,
non, je défends les petits clubs et leur mérite.
Je vais dire un truc, c'est que si Rennes n'est pas en Europe l'année prochaine, bah peut-être que ça va être enfin leur saison où ils vont faire quelque chose en championnat. Parce que peut-être qu'ils vont ne pas avoir l'Europe, parce que ça faisait 6 ans qu'on avait l'Europe sans interruption. Donc, mener les deux de front, hein, c'est là le problème que va avoir Brest aussi. C'est pas simplement de perdre des joueurs, mais c'est d'avoir un effectif double, hein, pas double, disons que un effectif qui te permet de jouer toutes les compétitions. Et là, peut-être que Rennes, bah, si l'intersaison, voilà, si on recrute enfin, hein, c'est pas comme les Marseillais, c'est pas le grand attaquant qu'on recherche, hein, c'est le grand défenseur. Voilà, donc si on recrute le grand défenseur, peut-être que Rennes fera ça, enfin cette saison qu'on attend depuis longtemps, et puis voilà, on retrouvera l'Europe au bout de la saison, j'en sais rien, mais le seul problème qui va se poser, c'est la multiplication des matchs et tout. C'est Brest, c'est évidemment qu'ils vont, c'est une équipe compétitive, mais ouais. Voilà, l'enchaînement des matchs, et tu vois bien ce qui s'est passé avec Lens, voilà, oui, ce qui s'est passé avec beaucoup d'équipes.
Lens finit la saison, ils sont complètement cramés là.
Mais ouais.
Mais je dis pas le contraire, laisser profiter Brest de cette fin de saison.
Mais bien sûr qu'on laisse profiter, mais j'ai le droit de dire qu'ils vont être limités, c'est normal.
On a de toute façon, en foot, on sait que sur un match, tout est possible.
C'est-à-dire que l'important, c'est les 3 points.
Mais et la qualification, si c'est sur un match. Mais sur une saison, quand il y a 34 matchs, on peut tarabiscoter dans tous les sens. Si tu finis deuxième, troisième, quatrième du classement au bout de 34 journées, c'est que ta place, tu la mérites. L'année dernière, y en avait certains qui disaient le Lens est champion de France du mérite. Mais champion de France de rien du tout, mon gars. C'est-à-dire que si tu es champion de France, c'est que tu termines premier, comme Lille l'avait fait la fois d'avant, ou Monaco, ou Montpellier sur toutes les saisons où QSI est arrivé à Paris. Donc à un moment, c'est voilà, c'est, le mérite, c'est celui qui est devant. Alors bien sûr, tu as plus de mérite, entre guillemets, parce que tu as beaucoup moins de budget. Mais on va dire que Lens, l'année dernière, ils n'avaient qu'un seul match par saison. Là, on a vu qu'avec 2 par semaine pendant très longtemps, en plus, ils ont pu terminer 3e et au moins aller faire l'Europa League. Bah, on voit que là, en fin de saison, ça tire la langue. Donc, là où tu disais, Jérôme, sur le fait que Rennes n'aurait qu'un match, bah, cette saison, Lyon n'avait qu'un match. Là, Monaco, c'est le contre-exemple. Parce que eux, pour le coup, ils ont une équipe taillée pour la Ligue des Champions avec un match par semaine. Donc là, pour le coup... Et quand tu vois que là, ils ont déjà des bons attaquants, mais en plus, tu as Mbolo qui revient, ça aide un peu plus. Bon, pas assez pour gagner contre Lyon sur le match sur lequel on va enchaîner, parce que c'est sûr qu'on va faire une émission de 2 heures et Christophe va nous tirer les oreilles. Donc voilà, superbe transition, on va aller sur le Lyon-Monaco. 2 équipes qui, avec Marseille, normalement, plus Paris, doivent rester, entre guillemets, si on regarde les budgets, les 4 premières places de Ligue 1, le fameux axe PLM avec un M au carré, parce que tu rajoutes Monaco à côté de Marseille, bah, c'est compliqué. Dire que bah, Monaco avait encore une chance de priver Paris de titre, bon, sachant que ça aurait fait 9 points, mais avec le goal average, quand il arrivait, Paris est champion. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais champion, mon frère, le numéro 12 dans l'escarcelle, ça sera la seule mention.
Champion du mérite aussi, non?
On reviendra pas dessus.
Je ne sais pas si c'est mathématiquement fait, parce que j'ai lu que...
Ah bah oui, on a 12 points d'avance, il reste 9 points. Mmh. Mais même si Monaco avait gagné à Lyon, ils auraient eu 9 points, avec 9 points à prendre, mais un goal average... on va le rappeler. Je ne l'ai plus là, le classement. Paris a un goal average de 47 et Monaco 17.
Oui.
C'est donc rare, rattraper. Alors, sauf si Paris perd tous ses matchs 5-0 et que Monaco les gagne 5-0.
Oui, voilà. On est
5-0. Et c'était pas gagné non plus. Donc après, on ne sait pas. Hein, sur la dernière journée, tu fais rentrer Le Tellier et Rico. Pourquoi pas te prendre une valise. D'ailleurs, on n'a pas entendu le président du Havre se plaindre du turnover de Paris ce week-end. Est-ce un lien de cause à effet ou juste une corrélation, je ne sais pas. Donc, on va aller sur le Lyon-Monaco. Donc, Monaco qui pouvait aussi prendre le large, enfin essayer de prendre le large sur Brest. Et ben non. Avec cette défaite monégasque qui donc donne le titre à Paris dans son canapé, Brest reste à 2 points de Monaco. Hop, je vais mettre rapidement le petit classement. Hop, je fais disparaître OJCRM qui continue à nous enchanter de ses commentaires sur le chat. Coucou à lui d'ailleurs. Donc, bon, on va à Paris. Donc, Monaco 58, Brest 56, Lille 55 avec sa victoire poussive, mais elle a le mérite d'être là contre Metz, à Metz, menée 1-0 avec un pénalty de l'incontournable Mikoladze. Mikoladze, pardon, tout à fait. Donc, le 2-1. Nice, il y a 4 points d'écart pour la 4e place. Même si Nice revient bien, on sent que ça sera quand même difficile à aller chercher, sachant qu'ils ont un déficit au niveau goal average par rapport aux 4 de devant. Lens occupe toujours ce dernier strapontin 6e, même si on sait qu'il y aura probablement une 7e place qualificative, sauf si Lyon gagne la Coupe de France. En tout cas, on a quand même, entre Lens qui est 6e à 46 points, même Rennes qui n'est pas en jeu encore à 42 points. Donc tu as 4 équipes qui vont se disputer les 6e et 7e places, ou au moins la 6e place. Donc rien n'est fait. Lyon fait quand même la bonne opération pour rester en course, avec Marseille qui enfin gagne. Oui. Parce qu'on voit quand même que sur l'enchaînement, c'était quand même 2 défaites,
terrible, hein,
2 matchs nuls, et enfin cette victoire contre Lens hyper importante, parce qu'en plus, ça permet de revenir. Au lieu d'avoir des Lensois à 49 points ou à 47 et un Marseille plus bas, tu reviens à 2 points de Lens, c'est énorme. Donc bah, vas-y, Marley, comment toi tu vois cette fin de saison pour les Marseillais, est-ce que tu sens quand même qu'il y a quelque chose avec en plus cette Europe qui te donne de l'allant, quoi?
Ah ouais, mais je crois que il faut que je revoie le calendrier, mais il me semble qu'on a une fin de saison plutôt abordable, puisqu'on va aller à Reims, il me semble. Ouais, c'est ça, on va à Reims. Ensuite, on joue Lorient à domicile. Ensuite, on va au Havre. Donc, je veux dire, pour les 3 derniers matchs, ça reste quand même normalement abordable. Et puis, après, il faut voir avec le calendrier de Lens aussi et de Lyon notamment, parce que ça va se jouer entre ces 3-là. J'oublie Rennes, hein, je pense qu'ils sont décrochés, ils sont finis.
Mais quelle indignité.
On embrasse toutes les galettes.
Il y a une manière de dire les choses. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus dans cette émission, mais la courtoisie fait quand même partie. Hein.
C'est pas Marseille, la courtoisie.
On reste courtois, monsieur. Hein.
Et donc, non, je pense que la fin de saison, elle est plutôt abordable. Après, je n'ai pas le calendrier de Lyon et de Lens en tête.
Mais Lyon, il finit par Strasbourg et Clermont. Et en fait, ils ont encore un gros match là contre.
Lyon fait Lille.
Ouais, quand même.
Va à Clermont et reçoit Strasbourg pour la dernière journée.
Ouais, c'est quand même 2 matchs à l'extérieur.
Ouais,
bon, sachant plus, que tu as Clermont qui peut être.
Mais Strasbourg, ils vont se battre jusqu'au bout.
Clermont, on n'a pas fait le point sur le bas de championnat, mais on a quand même maintenant on a 3 points d'écart, ce qui peut paraître énorme, même si j'ai plus envie de dire grand chose. On prend quand même Clermont qui, sur les 4 derniers matchs, ne fait finalement qu'une seule défaite. Donc, elle a quand même repris un petit peu. Metz, qui avait enchaîné 2 victoires, ce qui leur a permis de reprendre un petit peu de.
Tu vois que Metz a un meilleur parcours que Rennes sur les 5 derniers matchs.
Tu prends Le Havre, qui c'est vraiment difficile sur cette fin de saison, même si, comme Clermont, ça a réussi à prendre un point au Parc, alors que normalement, ça ne mérite pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Même non.
Point du mérite.
Ouais, mais c'est ça. C'est quand tu regardes les expected points sur le match, c'est comme Clermont. C'est-à-dire que Paris a quasiment entre 2,5 et 3 d'XG, alors qu'en face, ça a quasiment 1 d'XG, sachant que Le Havre réussit à avoir un peu plus d'un d'XG avec un penalty qui est à 0,79. Donc, ça te laisse imaginer la réussite il y a sur le match, même si Paris fait pas mieux, hein, parce que t'as 5 tirs cadrés, 4 tirs cadrés pour Paris et 3 buts. Donc, mais t'as plus de possibilités, mais.
Mais oui, mais André Ayew s'est rappelé au bon souvenir des belles années qu'on a passées au parc, quand même.
Mais voilà, ça tourne pas forcément bien. Voilà, ça tourne pas forcément bien. Paris a pas baissé les bras et a au moins accroché ce nul. Mais voilà, tu vois déjà que Nantes, avec déjà 3 points d'avance sur Le Havre, je parle même pas de Strasbourg, parce que pour moi, Strasbourg à 36 points, t'es sauvé. T'es à 7 points. Faudrait qu'ils perdent quand même leurs 3 matchs et que Metz gagne ses 3 matchs pour passer devant. Enfin, c'est quasiment. Donc aujourd'hui, Strasbourg est sorti de l'équation. On a donc plus que 5 clubs qui se battent pour éviter de descendre. Et on voit quand même que Nantes, avec 32 points et quand même quelques matchs gagnés. D'ailleurs, on peut rapidement voir la fin de saison de Nantes. Oui, c'est vrai que j'avais oublié la fin de saison de Nantes, donc qui se déplace à Brest, qui reçoit Lille et qui va à Monaco. Ouais. Donc, c'est vrai que Nantes peut faire 0 points. C'est vrai que Nantes peut faire 0 points. Donc là, à 32 points. T'as quand même un matelas de
spécialiste du maintien, hein, avec Comboiré.
Ouais, mais tu vois, au niveau du goal average, c'est finalement Le Havre qui s'en sort le mieux avec son moins 11, qui a vraiment pas mal de trucs d'écart. Donc,
j'ai regardé un peu le match entre Montpellier et Nantes. Et alors, ça me fait vomir la bouche de dire ça, mais quand même, le match Comboiré fait plutôt pas trop mal joué Nantes. Nantes a eu des occasions sur le match face à Montpellier. Le jeu était plaisant. Il faut le dire vite, mais c'était quand même pas non plus une purge abyssale, au moins sur la première mi-temps. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème de Nantes, c'est que tu n'as pas de projet, quoi. C'est-à-dire le projet, c'est le maintien. Il faut se sauver absolument parce qu'au bout d'un moment, ça commence à sentir le cul. Mais sinon... Non, mais c'est vrai, t'as pas de construction d'effectif, t'as rien, quoi. T'as pas d'avenir, mais là, c'était plutôt pas mal, quoi, de voir Nantes. Je trouvais le match était plutôt.
Après, ça se bat, mais c'est vrai qu'on parlait de Nantes, mais le calendrier de fin de saison du Havre, s'ils doivent faire quelque chose avec des Strasbourgeois qui sont quasiment sauvés, c'est à la maison contre eux, essayer de prendre au moins un point. Parce qu'après, tu finis à Nice et tu reçois Marseille en dernière journée. Marseille qui, très vraisemblablement, aura quand même besoin de points, sauf s'il gagne la Ligue Europa. Voilà. Hein, donc, franchement, dans ce cas-là, c'est le braquage du siècle. Hein. Ouais. Là, pour le coup.
Il reste qui? Donc, il y a l'Atalanta en demi, Marseille, et après, de l'autre côté, c'est qui?
Je crois que tu avais le Milan et je sais plus qui est.
Non, la Roma.
La Roma, c'est la Roma qui est passée.
Ouais, battu Milan et il y a pas un club allemand encore. Hein.
Ah bah oui, le Bayern.
Le Bayern Leverkusen.
Voilà.
Donc oui. C'est vrai que si vous faites Atalanta et que vous passez, vous gagnez contre le Bayern en fin de saison.
Bien sûr.
Là les gars, je pense que là vous aurez le droit de défiler sur la canebière. Hein. C'est et ça ne sera pas pour fêter la défaite de Paris.
Si l'Allemagne, là, puisque comme si le Bayern gagne l'Europa League, donc il sera. C'est à quelle fédération que revient la
place? En fait, vu qu'ils font partie des qualifiés directs via le championnat. C'est le jeu de taquin avec les fédérations qui sont après. C'est-à-dire qu'un champion qui rentrait en barrage ou en
est-ce que ça profiterait pas à la France, ça?
Non. Nous, on reste à trois qualifiés directs et un en barrage.
Tu gagnes pas un tour de barrage ou quoi que ce soit?
Non, c'est dans la voie des champions que c'est rebalancé. Nous, avec les barrages, c'est dans la voie de la Ligue, comme ils appellent ça. D'un côté, voie champion, où tu as deux champions qui arrivent au bout. Et pareil, avant c'était ça, mais peut-être qu'il y aura une petite modif aussi avec le nombre de clubs. Donc voilà, ça passe plutôt sur la partie champion où tu favorises un champion de son pays pour participer à la Ligue des Champions. Le 10 ans, ça paraît tout à fait normal. Mais venant de l'UEFA, qui aime le blé, comme tu l'as si bien dit, Marley, c'est pas forcément évident. Donc, ouais, on revient rapidement sur... sur notre Ligue 1. Pas forcément grand chose à dire sur le match. Lyon mérite sa victoire sur Monaco. Disons que Monaco avait déjà un peu volé enfin eux ils ont rien fait, c'est plutôt l'arbitre qui ne siffle pas penalty de Minamino en fin de match qui permettait à Monaco de gagner contre Brest. Il me semble, contre Lille. Lille ? Je ne sais plus. Donc, bref. Donc, la victoire, assez logique. Tu veux nous donner un petit aperçu, Marlène, sur le match de Marseille contre Lens ? Au niveau des XG, yes. ça, c'est à peu près ça, hein, 1,77 d'après underscore et 1,25 pour Lens. Victoire méritée des Marseillais sur le match, même s'il y a eu un gros raté en première mi-temps avec une tête sur le poteau à bout portant, je crois, de Sotoka. Mais sinon, ouais. Deuxième mi-temps, c'est maîtrisé. Et pour le coup, c'est normal que Marseille gagne le match. Quoi.
Bah, disons que, si tu veux, ça a bien commencé avec le but d'Aubameyang au bout de quelques secondes. Mmh. Et puis après, fin de première mi-temps, ça a été quand même assez laborieux. Alors, la tête de Sotoka sur le poteau, c'était en fin de première mi-temps, il me semble.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises. Mais il y a eu 2-3 occasions franches pour Lens, donc ça a été un peu chaud. On a pas mal reculé. Et puis ensuite, voilà, ça revient un partout en quasiment fin de partie à 78e, je crois. Et là, on se dit, ben voilà, on va encore faire un match nul. Et alors, oui, et Wai qui rate le but vide, ça c'est vrai aussi, c'était une énorme occasion. Et on s'est dit, ben ça y est, on va encore faire un match nul comme contre Nice précédemment. En fait, cette saison, elle a été horrible. Horrible dans tous les sens du terme, vraiment. 3 entraîneurs différents, c'est parti dans tous les sens. Je sais bien que c'est Marseille, mais là, franchement, c'est quand même une saison incroyable. Tu commences avec Marcelino, tu continues avec Gattuso, t'as un intérim de Abbandonado, t'as tous les coachs qui finissent en haut, en fait, qui sont venus à l'OM. Et puis, tu finis avec ce bon vieux Jean-Louis Gasset, qui s'est fait remercier de la sélection ivoirienne. Bon, j'espère que déjà, il nous emmènera le plus loin possible au niveau du classement. Là, on a vu qu'il y avait quand même un calendrier plus favorable. Mais voilà, que pour l'an prochain, on trouve une certaine stabilité. Alors, ça n'a jamais été stable à l'OM. Mais que voilà, on puisse un peu respirer. Parce que franchement, bon, là, c'est assez catastrophique cette saison. Et pour revenir sur le match, donc, Pape Gay qui nous sauve. Mais Pape Gay, voilà, c'est un peu. C'est incroyable. C'est un peu symptomatique de cette saison. C'est des joueurs qui, par-ci, par-là, vont te faire un truc de temps en temps. Mais il n'y a pas de liant, il n'y a pas de collectif, ça joue pas bien ensemble. Sauf, ouais, contre Lens, ça a pas trop mal joué. Mais globalement, si tu regardes la saison, je sais même pas comment dire.
Ça fait un moment quand même. Quand est-ce qu'il va pas revenir la saison, lui?
Ouais, je pense qu'il reviendra pas, Rongier. Il est en phase de reprise, mais je pense pas qu'il reviendra.
C'est possible que tu parles de Lyon au milieu de terrain. C'est quand même, bon, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais c'est quand même,
Oui, c'est un bon élément, c'est sûr. Ouais.
Mais vous avez bien fait de prendre Gasset plutôt que Blanc, en fait.
Ah oui.
Vous avez eu du nez.
En plus, c'est moins cher en salaire.
Voilà.
Ouais. Ouais, ce qui me fait peur quand même pour Marseille, c'est qu'apparemment, votre cher président a encore prévu de changer tout l'effectif la saison prochaine.
Bah, pour une fois, est-ce qu'il faudrait vraiment. Est-ce que ce serait pas judicieux? Parce qu'alors là, pour le coup, cette saison, il n'y a rien qui a marché, quoi.
Mais si tu surtout, pas c'est le que temps, Marseille, tu vois... Marseille recrute hein, quand même, parce qu'en en 2-3 saisons, vous avez quand même dépensé 200 millions d'euros sur le marché des transferts. Quoi.
Ah oui, tous les étés, Longoria est en
refait. Après, vous vendez aussi. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, vous êtes quasiment à l'équilibre, voire bénéficiaire. Mais oui. Et c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est que même Marseille, avec ses moyens, c'est un club de Ligue 1 qui est obligé de vendre des joueurs pour équilibrer à la fin de la saison. Si, en plus, Marseille est en Europe, donc tu as le fair play financier qui est là. Tu ne peux pas forcément faire trop n'importe quoi, notamment au niveau de la masse salariale, où on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte. On le répète toujours assez. C'est que voilà. Donc après, tu fais des panic buys. Même si Quentin Merlin a 12 millions, pour moi, c'est pas forcément un panic buy. C'est Quentin Merlin fait partie des arrières latéraux qui sont qui sont intéressants pour le futur. Qui font partie de ces joueurs comme Truffert, à Rennes, qui sont hyper intéressants. Au lieu d'aller chercher un Brésilien obscur à 30 millions côté Paris, Paris se cherche une doublure en arrière-gauche de Nuno Mendes, sachant que Nuno Mendes, généralement, rate à peu près 2 ou 3 mois chaque saison.
C'est vrai.
Tu fais venir un Truffert ou un Quentin Merlin, le mec, il fera ses 15 ou 16 matchs, surtout avec Luis Enrique sur le banc qui fait tourner comme un gros malade. Franchement, ça peut être intéressant, même si je crois que ça.
Enfin, Merlin, il a rien montré pour l'instant. C'est, j'espère que c'est bien pour l'avenir. Ce sera bien pour l'avenir. Mais pour l'instant, il a rien fait du tout. Après, il a plutôt fait des bourdes, d'ailleurs.
Guendouzi, c'était pas simplement au niveau du. C'est pas que sportif. C'est, je pense aussi que c'était
un sportif avec Tudor,
il y avait dans le vestiaire, etc.
Il a retrouvé son coach en plus à la Lazio.
C'est ça. Oui. Bizarrement, on l'a mis sur le banc.
ouais, bizarrement.
Oui, mais c'était la semaine dernière là, où il avait fait un geste ou je sais pas quoi, justement, en direction du banc, en disant « Ah, fallait me faire jouer si vous voulez que je marque. »
Ouais, après, que veux-tu. Sinon, sur cette fin de J31 de Ligue 1, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, la victoire de Nice à Strasbourg. Bon, on a dit Strasbourg, ils sont quasiment en vacances, avec 7 points d'avance sur les barrages. Donc Lille qui fait le travail sans être magnifique contre Metz, mais c'est le genre de match qu'il faut gagner contre les petits si tu veux espérer en Ligue 1 et terminer dans les 4 premiers. Reims, que dire ? Ils offrent à Clermont leur plus belle victoire de la saison et peut-être encore le goût d'y croire, même si à la question, je crois que c'est toi, Carlos, qui avait dû lancer Clermont qui se maintient, vous y croyez ? Bon, moi, j'ai mis un gros non. Sans argumentation.
Non, mais je crois que il parlait de l'ASM, il parlait pas du Clermont Foot, il parlait de l'ASM, l'ami. Parce qu'ils sont pas bien non plus, top 14, les Clermont.
Oui, oui.
Je sais pas, moi je vois juste que des gars en rose qui jouent avec des éclairs en bleu, ça, ils marchent assez bien, donc ça va.
Et pour parler rugby, juste 2 petites secondes, Carlos, je sais pas si tu suis un peu la Pro D2, mais Provence Rugby est en phase finale, ils sont en demi-finale pour l'accession en
top 14. Oui, comme Van. Donc, faites pas les malins.
On s'en fout de Van.
Non, on s'en fout pas, monsieur. On parle de la Bretagne. Ça y est.
Ce serait historique.
C'est toujours un Marseillais qui vient de cacher la tête.
Franchement, déjà savoir qu'il y a des Bretons qui ont trouvé que.
C'est là où il va y avoir la Ligue des Champions.
Qu'on pouvait jouer à un sport en tenant un ballon dans la main. Alors, déjà, c'est déjà exceptionnel. Puisque la Bretagne, quand même, terre de rugby, je veux voir ça.
Tu ouvres les vannes. C'est un des plus gros clubs de Pro D2.
Ouais. C'est vrai.
Bon, en tout cas, on leur souhaite.
Voilà.
Hop, j'enlève la Ligue 1. On va passer aux choses sérieuses. Les previews. Pour les coupes européennes, notamment donc Paris.
Je vais vous abandonner si ça vous embête pas. Je n'évite pas l'obstacle, mais bon.
Avant de partir, sans argumenter, tes pronos pour Paris et Marseille.
Alors, attends, c'est quoi Paris, ils vont jouer à Dortmund.
On se déplace au Signal.
Je mettrai une victoire de Paris. Allez, une petite victoire étriquée, 2-1. Et Marseille, ils jouent, ils reçoivent ou...
En premier, ouais.
Ouais. Bon, il mettra... Ah, attends, quoi que, l'Atalanta, ça joue. Allez, 2-2. Donc, 2-1 pour Paris et 2-2. Ouais. Mais bon, j'espère me tromper pour Marseille.
Merci. Ouais.
C'est noté, c'est dans la boîte. Bon, allez, messieurs, ouais. À la semaine prochaine.
Ouais, bonne soirée.
Bonne annonce.
Bonne annonce. Attendez, comment je quitte déjà?
Ouais, au pire, hop.
Ouais. Allez, salut.
Ah, donc, comment vous voyez, c'est-à-dire que, on va plus, je vais faire la petite intro. Disons que quand on a vu le tirage et le résultat suite au quart retour de Dortmund qui gagne contre l'Atlético, beaucoup de supporters de Paris, et finalement dont je fais partie, hein, je m'exclus pas de ça, nous voient déjà en finale. À l'image aussi de ce qui s'est passé en phase de groupe, où tu gagnes 2-0 à la maison contre un Dortmund qui est pas du tout bon en championnat et t'en profites. Le match retour, Dortmund est déjà qualifié. Ils ont juste à assurer de faire le match nul ou la victoire pour rester premier de groupe. Mais Paris fait un bon match. Tu as toutes les occasions. Je crois qu'avec Newcastle, on était sur quasiment 8 XG sur les deux matchs. Donc, Paris, normalement, doit gagner à Dortmund. Dortmund allait beaucoup mieux. Paris, ça commençait à aller mieux. Avec un Dortmund qui a aussi son championnat à sécuriser, au moins la cinquième place, qui serait qualificatif pour la Champions League avec le nouveau principe des coefficients, des deux meilleurs coefficients nationaux de fédération, et a priori, il devrait rester devant l'Angleterre, parce que la première place est promise à l'Italie, il me semble. Est-ce que finalement, les Parisiens, s'ils jouent à leur niveau, c'est victoire aller, victoire retour, bonjour monsieur, au revoir monsieur, c'est let's go road to Wembley, comme on dit, ou alors, attention, et si on rentre dans les trucs du foot habituels, un match, il faut le jouer avant de le gagner, vos avis? Carlos.
Vas-y, bon, je pense que ils sont quand même là. Pour moi, ils sont au-dessus de Dortmund. Ils ont fait un beau parcours cette année. Je pense que pour beaucoup de supporters parisiens, si vous deviez signer une saison en demi-finale de Ligue des Champions, vous l'auriez signé de suite. Après, quand tu vois le parcours là qui est en train de se dessiner, tu te dis bon, en fait, la demi-finale, c'est bien. Pourrait peut-être attendre mieux quand même. Surtout, je voudrais quand même saluer, moi, c'est la gestion de Luis Enrique. On en a souvent parlé ici. Je trouve que le travail qu'il est en train de faire, en fait, avec cet effectif, est tout bonnement exceptionnel. On s'aperçoit qu'il y a certains journalistes qui sont en train de retourner leur veste. Alors, on ne parlera pas du fou RMC, où il y a un monsieur Riolet qui s'est mis à lire un papier en plein milieu de. En plein milieu d'émission pour dire non mais moi j'avais dit qu'à Paris ça se passait bien et que de toute façon tout s'était bien calé et que je critique absolument pas Monsieur Enrique, hein, j'ai pas fait ça du tout. Donc non, ce qu'il est en train de faire, il a mis sur les quatre équipes qui restent dans le dernier carré, Paris est la seule équipe à n'avoir quasiment aucun blessé dans son effectif. Et avoir tous les joueurs au frais.
On n'en a aucun, à part les blessés de longue date.
Oui, voilà, Kimpembe et Rico, mais c'est encore autre chose que de la blessure. Mais quand tu regardes le Real, ils ont une moitié d'équipe sur le flanc. Le Bayern, la moitié, c'est pareil, c'est une moitié d'équipe sur le flanc. Et Dortmund, l'état de forme n'est quand même pas forcément très vaillant, vu qu'ils s'en sont pris 4 à Leipzig samedi dernier. Donc, dans la logique, pour moi, même maintenant, Paris est un prétendant et un grand favori à la victoire finale. Il ne faut plus se cacher derrière son petit doigt. C'est vraiment l'année ou jamais. Et
c'est vrai que tout s'aligne, hein, pour Paris.
Ouais, c'est clair.
Et toi,
Et en plus, ben, moi, je rejoins ce qu'il dit, ce cher Carlos, parce que de toute façon, on voit que Dortmund, là, ils sont cinquième, ils enchaînent les matchs plutôt compliqués. Ouais, ils en ont pris quatre à Leipzig. Je crois qu'ils ont fait un match nul contre le Bayern avant ça, Bayer Leverkusen. Donc, oui, non, ils sont pas à prendre à la légère, comme c'est écrit dans le chat. Mais je pense que de toute façon, Paris, ils sont assez expérimentés pour quand même gérer ce genre de situation si proche du but, quoi. Donc, j'ai envie de dire, en plus, tu te déplaces à l'aller. Bon, tu peux peut-être te permettre de prendre un but et de rattraper ça au retour. Moi, je vois franchement Paris au-dessus. Et après, de l'autre côté, c'est Bayern Munich et
Réal.
bah, Real.
Real et Real, ouais. Oui, donc moi je vois Paris en finale sans trop de problèmes. Et après, par contre, en finale, ça va être chaud, quoi. Je sais pas. Mais oui, je les vois aller en finale.
Bah, normalement, on va dire que là, avec ce que montre Paris et surtout l'état d'esprit, dire que on l'a assez dit, et moi je l'ai quand même souligné. Quand on a fait le débrief, il y a quand même pas mal de gens qui étaient quand même tombés sur Mbappé à l'issue du match retour contre le Barça, en disant bah ouais, il met deux buts, mais en fait, moi je veux un Mbappé qui est toujours comme ça. Donc qui se bat, est en forme sur cette fin de saison. Donc là, avec ce qu'on a, avec normalement enfin sur cette fin de saison, la défense type, je veux un Lucas Hernandez qui morde à la cheville Füllkrug comme il a mordu à la jugulaire Lewandowski sur le match retour. Voilà. Donc finalement, si Paris joue à son niveau, sachant qu'en plus Paris est très fort là où il y a sur les points faibles de Dortmund, c'est-à-dire sur la vitesse. On a quand même un milieu de terrain, Sabitzer, Emre Can. Bon, c'est quand même pas les plus mobiles. On a Hummels, qui fait une super saison, mais qui a quand même ses 36 ans. On a déjà
Voilà, c'est
vu
ça.
Mbappé avait eu des soucis contre lui, mais voilà, c'est sur la fin de saison. Et je crois même qu'il était sorti à la fin,
Mais
durant le match contre Leipzig. J'ai même cru qu'il était blessé, donc.
Arnaud, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en plus, tu t'aperçois que Paris n'a pas 11 joueurs frais, ils en ont 20. C'est-à-dire que je vais dire une grosse saucisse, une grosse merguez. Mais tu sens qu'à Paris, même si Mbappé se blesse, tu as une sorte de force collective
Bien sûr.
qui se dégage. Alors, ça sera plus compliqué. Je ne dis pas qu'ils peuvent le faire. Mais limite, c'est pas grave parce qu'ils ont, en fait, ils ont un schéma de jeu et tu sens que les autres joueurs, ben, même Kolo Muani qui n'est pas forcément très très bon, tu sens qu'il y a une force ouais, t'as une force collective et puis une force, une
Et
confiance.
Colomouani qui revient en Allemagne, il y a moyen qu'il retrouve ses sensations. Hein. Il voit une défense de Bundesliga, lui il va être tout foufou. Et de toute façon, c'est écrit. On a vu que Dembélé, avec la misère qui s'est pris par le Barça, le mec il n'avait pas marqué en Ligue des Champions depuis What Time. Et depuis, on n'arrête plus Dembélé qui a mis 4 buts en 3 matchs.
C'est
C'est
vrai.
la folie. Et tout à mais Kolo Muani, je le vois très très bien mettre un doublé ou au moins un but dans les deux matchs pour qui rentre. Mais comme tu le disais, Carlos, les années passées, tu t'abordais toujours les rencontres éliminatoires avec un Neymar blessé, avec même des fois un Mbappé blessé, avec un Verratti sur le flanc. T'avais tes meilleurs joueurs qui n'étaient pas là, ou alors pour suspension et
Bah,
accumulation de cartons jaunes.
c'était quand? C'était la saison dernière avec votre jeune défenseur central là, comment il s'appelait?
Bichabou, qui? El Shaddai?
Pichabou. Oui,
Ah
c'était l'année
oui.
dernière. Où il n'y avait
Qui
plus
est
un
là sur le côté
défenseur.
gauche.
Tu vois Skriniar, tu te dis normalement il est out pour la saison. Bah, tu vois qu'il revient en fin de saison. Ça ne sera pas le titulaire. Mais tu te dis en fin de match, si tu as besoin d'un défenseur central d'expérience, il peut faire les 10 minutes. S'il faut serrer le match,
Bien sûr. Et c'est pour ça que tu le disais, et moi je suis tout à fait d'accord, c'est qu'aujourd'hui, sur les années, enfin même sur les années passées, tu avais un de tes gros joueurs qui était absent, tu tremblais de tout ton corps. C'est-à-dire que avant les matchs de Ligue des Champions, vu que Paris ne faisait pas tourner, tu avais un PSG Metz ou un PSG Clermont, juste avant Ligue des Champions. À chaque fois que tu avais un Clermontois qui faisait un tacle sur Mbappé, mais tu tremblais de tout ton corps, parce que tu avais juste envie qu'il le touche pas. Et à chaque fois qu'il était par terre et qu'il avait du mal à se relever, tu disais, bah, c'est bon, on est éliminé derrière. Là, cette saison, Mbappé, il se faisait défoncer par un Havre. Je fais, bah, c'est pas grave. Il y a Ramos qui remplace en neuf. Tu as quand même Barcola sur le côté gauche et Dembélé à droite. Moi, je suis serein. On y va comme ça à Dortmund et on les fume. Et en fait, oui. c'est que tu as une puissance collective que tu sentais un petit peu sur le début de saison. Et là, mais ça monte crescendo. Les fameux journalistes se sont foutus de la gueule de Luis Enrique quand il disait qu'attention, Paris sera meilleur en février-mars. Ah ben, sauf que la progression, elle continue. Là, tu vois que le match du Havre, la saison passée, tu le perds. Les fameuses défaites de fin de saison où tu perds 3-2 à la maison contre Clermont, le dernier match. Tu perds 3-1 contre Lorient, où tu as Enzo Lefebvre, où le mec, c'est le meilleur joueur du monde contre Paris. C'est littéralement amusé. Ouais. Là, cette saison, c'est pas comme ça.
Alors que ce qui est bien, c'est que contrairement à vous à Marseille, ils n'ont pas besoin de trembler sur un titulaire qui pourrait se blesser pour un match parce qu'ils n'ont plus de titulaire au niveau de leur équipe. Donc, ils vont arriver avec leur moins de 18 à Bergame, enfin, home Bergame, et ça va être.
Ouais.
Non ?
Ouais, c'est clair que. Ben, je ne sais pas, on fait la transition là ou pas ?
Peu. Qu'est-ce que t'en dis, Arnaud ?
Ouais, on fait juste nos pronos pour ce match aller à Dortmund. Sachant que je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que Paris prend forcément un but à l'extérieur. Je crois qu'on est sur un nombre de matchs consécutifs avec un but pris à l'extérieur en Ligue des Champions qui est assez monstrueux. Donc, Marley, ton prono.
Match aller, donc c'est à Dortmund.
Ouais.
Je vois bien 2-1 pour Paris.
Ouais. J'achète. Carlos ?
Alors, moi, tu sais bien mon aversion et mon chat noir. Dans le pronostic, donc j'annonce un 9-0 pour Dortmund, comme ça moi je ne me mouille pas, je ne pars pas le chat noir.
Tu
ne
te mouilles pas, c'est sûr.
Ouais.
Bon, voilà, ouais.
Dylan sur le chat te suit, hein, Marley,
ah, bah, ouais.
C'est ce qui revient un peu plus, je crois que sur les sites de Paris c'était le 1 partout, il y avait la cote la plus importante il me semble, mais je pense que tu as quand même je pense que Paris peut carrément terminer la demi dès le match aller, quoi, avec un 2 ou 3-0 bien senti. Et je pense que ça pourrait même être une catastrophe pour le Dortmund à ce que le match soit plié à la mi-temps du premier match. Mm. Avec un Paris sérieux qui monopolise le ballon, qui fait courir le Bayern, avec des Dembélé, des Barcola qui percutent, Dortmund. Avec un Mbappé qui est concerné, qui va couper la ligne de passe. Tu sais que c'est Hummels. Ce qu'il a fait à Kubarsi, il va le faire à Hummels. Parce que Schlotterbeck, sur les relances, c'est quand même pas oufissime. Ça va serrer au milieu de terrain parce que ça va jouer en code de 3-1. Mais après, le gros truc de Paris, c'est que c'est les coups de pied arrêtés. Et on sait que Dortmund, pour moi, ils marqueront peut-être 1-2 buts sur coups de pied arrêtés. Parce que c'est là où ils sont très très forts, avec des mecs comme Füllkrug qui sont très forts en l'air, avec un très bon jeu de remise, etc. Avec des ailiers qui sont très percutants, avec Adeyemi et de l'autre côté Sancho qui revient bien. Donc ouais, on va dire un match spectaculaire, un 3-2, on va dire pour Paris à l'aller, et tu finis au match retour à la maison avec une victoire. Mais on est d'accord. Normalement, si Paris joue à son niveau, c'est road to Wembley.
Ben ouais, si vous le prenez sérieusement, oui.
On va aller faire un petit tour du côté de la Canebière. Marley, comment tu vois ce match contre l'Atalanta ? Où on va quand même pas faire les fumistes. Hein. Je pense que à nous trois, on a dû voir un match de l'Atalanta cette saison, sauf peut-être ouais. si, euh, si vous regardez un petit peu plus. C'est déjà une présence un peu surprise de l'Atalanta qui a écarté violemment, on va dire,
Liverpool.
Liverpool, même s'ils perdent 2-1 à la maison sur le retour. Donc Liverpool gagne 2-1 à l'Atalanta. Il y a ce match aller qui est monstrueux où tu te dis que si dans un
meilleur jour, dessus.
Il leur marche dessus, littéralement. Scamaca, mais enfin, c'est totalement. c'est innommable ce qu'il leur met. Espérons qu'on tombe sur l'Atalanta du match retour.
Gasperini, ça fait quand même un moment qu'il les entraîne, ça fait un moment qu'il a établi son plan de jeu. Il reste dans son schéma un peu de 3-4-2-1, un peu avec une vraie pointe. Et ils ont. Après, l'Atalanta, c'est pareil, c'est pas forcément, entre guillemets, un gros budget de Serie A. Donc, ils ont perdu quelques joueurs, ils ont dû quand même renouveler un peu leur effectif, mais ils arrivent quand même à retrouver des joueurs, justement, comme Scamacca, qui était un peu, pas donné pour mort, mais qui était.
Qui a fait une saison pourrie en Angleterre, en plus.
Qui était sur les tablettes de Paris pour prendre ce fameux neuf remiseur qui avait entraîné le fameux pivot gang de Mbappé, parce qu'on lui avait promis Lewandowski et qu'il y avait Scamacca qui était sur les tablettes. Il était parti, c'était West Ham?
West Ham ou Aston Villa, je confonds toujours.
Aussi. Je vais vous dire ça tout de suite.
West Ham. Voilà, il s'est pas du tout fait à l'Angleterre. Alors, est-ce qu'il est en prêt ou il a été transféré à l'Atalanta?
Transféré à 25 millions.
Voilà, et sachant qu'il avait été acheté 40 ou 50.
Mais en plus, ils jouent, ils sont plutôt intelligents dans leur recrutement. Ils ont été recrutés deux Keleter qui étaient un deux Keleter, excusez-moi ma dyslexie, mais oui voilà qui était au Milan, et qui est annoncé comme un futur grand et qui a pas matché et en fait ben l'Atalanta l'a remis sur Tomorrow. Ils ont pris Kolozinac quand même en ancien à gauche.
Ouais,
qui est solide, et qui reprend alors non plus un poste de piston mais plutôt un poste de stopper gauche. Et qui assure plutôt pas mal ses matchs.
Ouais.
Ça va être assez terrible. Hein. Je pense que pour Marseille, il va falloir que.
En fait, moi, je vois le.
Je pense que ce qui peut les sauver, c'est le match aller à l'Orange, enfin au Vélodrome, parce que ça éviterait que quelque part. Alors, il faudrait pas qu'il y ait le scénario de Liverpool. Mais je pense que Marseille quand même peut-être peut éviter le fait de sombrer sur le premier match et ça pourrait donner, on va dire, une sorte de suspense pour le deuxième. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Nathan. Marley. Pourquoi à chaque fois
Nathan, il est à City. D'ailleurs, Marley Hacke a été prêté cette saison.
Si, on avait dit en Suisse.
Vous en aviez reparlé. Ah, en Suisse, d'accord. Bon, bah écoute, j'avais pas suivi. C'était au moment où je suis passé au bloc.
Puis après, on connaît la morphine, la drogue, le manque de sommeil.
C'est ça, l'ecstasy, l'héroïne. Avec modération.
Et les podcasts surtout, et voilà. Oui.
Exactement. Et pendant que Auxerre mène 3-1, donc Dunkerque qui est fait son accession
en
Ligue 1.
On est en Ligue 1.
Voilà. Merci. Parenthèse fermée. Donc, ce qui peut nous sauver, c'est vrai que le match aller peut nous sauver, nous mettre dans de bonnes conditions, parce que il va y avoir l'énorme ferveur que représente une demi-finale de Coupe d'Europe à Marseille. Ça va être très chaud. L'Atalanta, ils vont arriver dans un chaudron. Et c'est sûr que ça peut, cette saison, on n'est pas trop mauvais à domicile, ça peut jouer en notre faveur. Contrairement à l'an dernier où on était meilleur à l'extérieur. Après, je vois pas grand chose de positif de notre côté, malheureusement, parce qu'on a beaucoup de blessés, on a Jean-Louis Gasset, et on a Aubameyang qui a enchaîné tous les matchs de la saison ou presque, qui je sais pas s'il va finir dans les meilleures conditions.
Il a été voir le professeur Raoult, non?
Il est toujours là pour le moment.
Il était.
Ouais, c'est ça. Il est sous
chloroquine. Se faire greffer un troisième poumon, c'est ça.
C'est ça. Et donc moi, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Et effectivement, le seul truc qui qui me semble positif, c'est qu'on commence à domicile, qu'on peut démarrer la double confrontation sur un bon démarrage, tout simplement. Après, je pense qu'on est limité au niveau de l'effectif, on est limité au niveau des idées qu'on a dans le jeu. C'est pas assez bien huilé tout ça. Et je vois passer dans le chat, oui, Balerdi qui petit à petit, quand même, on l'a critiqué pendant des saisons, petit à petit est en train de vraiment s'imposer dans la défense olympienne. Ça, c'est vrai que c'est un bon point derrière. Après, s'il te manque des gars comme Bemba, je sais pas s'il va rejouer ou pas. Et puis au milieu, c'est incertain. T'as du Unai qui est pas bon. T'as Onana qui a jamais fait ses preuves. T'as comment il s'appelle Gay qui de temps en temps va te faire un exploit, mais c'est pas ouf. Quand tu sais que le foot ça se gagne aussi dans la bataille du milieu de terrain, ben là c'est un peu, tu vois, c'est un peu faible de notre côté. Et en face, donc, t'as l'Atalanta qui enchaîne les grosses prestations en Serie A, qui sont cinquième, je crois, de Serie A.
Ils sont sixième à deux points de la Roma, mais ils ont un match en retard.
Voilà, et qui ont certaines pépites dans leur équipe. Donc, tu vois, ça tourne plutôt bien. Moi, mon pronostic, ce serait peut-être, je sais pas, un match étriqué, genre une victoire 1-0 à l'aller de Marseille. Mais au retour, je ne vois pas gagner. Je ne vois pas gagner. Je pense un truc comme 2-0, tu vois, au retour. Malheureusement, j'aimerais me tromper. Et j'espère que je vais me tromper, bien sûr. Mais
après, à noter que.
Mais ouais, on finit vraiment sur les rotules, quoi.
Justement, est-ce que on peut pas quand même remercier, on le fait pas souvent, mais la Ligue de foot professionnelle, d'avoir aménagé le calendrier de nos deux Européens pour permettre justement à ce Marseille qui finit la saison avec les blessés, etc., leur permettre justement de de pas avoir à jouer ce week-end parce que ce week-end, l'Atalanta va jouer la Salernitana qui est dernière de Serie A et qui est déjà reléguée parce qu'elle n'a que elle a 11 points de retard sur Sassuolo.
Avec ce brave Benoît Costil.
Mais oui. Sassuolo, il y avait aussi l'ancien Marseillais. Le petit. Voilà.
Maxime Lopez.
Le Max. Max par le talent, mais pas par la taille. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pour le coup une bonne. Il fait quand même sa belle petite carrière du côté de l'Italie. Mais comme le disait au JCRM, en plus, ils ont fait tourner ce week-end l'Atalanta pour, ils ont gagné 2-0 contre Empoli. C'est vrai que Costil qui est au chat noir, qui joue à la Salernitana. C'est dingue, ce gars va dans un club, il descend.
Voilà, merci. Merci de me rappeler des bons souvenirs.
Dit au JCRM, c'est-à-dire que ces trois dernières saisons, Costil, il trois clubs, les trois clubs descendent. C'est magnifique. À un moment, Benoît, il faut savoir dire stop. donc voilà. Carlos, es-tu plus optimiste que Marley sur cette
qualif? Je vois aussi un 9-0 pour Bergame, pour ne pas porter malchance à Marseille. Mais je vois plus quand même.
Ça peut arriver au match retour. Fais attention.
Non, mais je vois plus quand même la Marseille résister sur le, enfin pouvoir tirer les épingles de son jeu sur le match aller. Et comme disait notre cher confrère, mais pour le, déjà match aller, on va voir comment ça va se passer et après match après match, hein, comme on dit.
Je pense que ce Marseille, moi, a du caractère en Coupe d'Europe. Je pense qu'il peut avoir deux matchs nuls, vu qu'aujourd'hui les buts à l'extérieur ne comptent pas double. Tu peux très bien avoir un 2-2 au Vélodrome et un partout à Bergame. Ça se joue encore au tir au but. Et comme le dit si bien Didier Deschamps, la loterie, toi-même tu sais. Ils sont passés par là contre Benfica. Ça peut repasser de la même façon. Et moi,
Ouais, mais justement, si on fait le parallèle avec Benfica, pour moi, l'Atalanta, c'est au-dessus.
C'est vrai que le Benfica de cette saison, c'est pas oufissime, mais l'Atalanta, c'est pas non plus un ogre européen. On parle de, d'un club qui.
Non.
Qui finira.
Et Marseille non plus, on n'est plus
finira
malheureusement.
Cinquième de, maximum de. Ce qui peut leur permettre d'aller en Ligue des Champions avec, comme les Allemands, la cinquième place qualificative via le bonus accordé aux meilleures fédérations sur l'année. Et voilà, c'est, ça peut faire des très bons matchs, mais je pense que ça peut aussi, c'était 1-0 d'ailleurs, hein, Liverpool au retour et pas 2-1. Et voilà, c'est-à-dire que l'Atalanta, elle est capable de perdre à Cagliari, elle perd à la Fiorentina. Bon, après, ça perd contre les deux Milan, mais ça fait match nul aussi contre, contre Milan.
Ouais, regarde Paris, tu fais match nul contre Le Havre.
Ouais, mais après, oui, en faisant tourner. C'est-à-dire qu'on a, on a cette chance-là cette saison aussi, provoquée, parce qu'il y a quand même un coach qui est là qui fait tourner. Et d'ailleurs, merci au club de Ligue 1 de refuser la victoire aussi et de nous permettre d'avoir. d'avoir aussi 12 points d'avance, parce qu'il y a, y a ça aussi, c'est que Paris peut faire tourner parce que les autres derrière ne font pas le travail. Enfin, en tout cas, font un travail moindre. Parce que Paris n'a qu'une seule défaite, mais tu as quand même 10 matchs nuls et 20 victoires, ce qui est quand même pas oufissime. Mais pour une saison de transition, soi-disant, ne pas l'oublier, on s'en tire pas, pas trop trop mal. Hein. Moi, j'avais dit, hein, fin de saison, tu gagnes le championnat, tu gagnes, enfin, où tu vas au moins en demi-finale de Coupe de France et tu faisais un quart de finale en tombant les armes à la main de Ligue des Champions. Moi, ma saison, elle était faite. Hein. Là, on va dire que celui qui aimait encore, qui n'est pas content du côté de Paris, c'est que c'est un supporter d'Armoire à Trophées qui supporte le Paris Saint-Germain depuis, depuis 10 ans et qui est habitué à manger du caviar. Donc, quand tu as souffert dans les années 2000, tu ne négliges pas ce, ce titre. On le rappelle.
Quand tu avais peur quand Marseille venait au Parc des Princes. Tu avais
peur. Non, parce que oui, si au final, bah, Marseille gagnait tout le temps, mais on réussissait à souvent être la petite épine qui empêchait Marseille de gagner le titre. Comme une saison où ils exterminent tout et. Et je crois qu'on gagne au Parc et, et finalement, si Marseille fait même juste le match nul, je crois que vous êtes champion, quoi. Donc,
oui, c'est l'année de Bordeaux.
Mais il me semble.
Ah, l'année 99.
Voilà, non, mais même dans les années 2000, c'est, y en a eu plusieurs des comme ça où on, nous, on naviguait entre la 13e, 14e, 15e place. Et surtout quand tu regardes les effectifs à l'époque que Paris avait. Mais les mecs, heureusement que les réseaux sociaux n'existaient pas. Hein. Parce qu'il y avait des descentes, quelques descentes de supporters au camp des loges. Mais là, les mecs et leur maison étaient brûlées. Hein. Enfin, aujourd'hui, avec les. Avec les fadas qu'il y a sur les réseaux sociaux, je pense que les mecs, ils sortent plus de chez eux. Ils sont obligés d'avoir, d'être protégés par la BRI et par le GIGN. Hein. C'est, enfin, en tout cas, c'est une autre époque.
Et on sent que tu descends dans le sud pour des missions, toi. Hein. Tu nous sors fada comme ça.
D'ailleurs, je serai du côté de, d'Aix en Provence.
En tournée.
Ouais, bah, c'est vrai. Je descends des fois par, par là-bas pour le boulot. Ben voilà, je pense qu'on a assez, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des petites chipots, des petites merguez à mettre sur le grill? Ah bah allez, c'est parti, mon Marley.
Chipot, c'est plutôt bien, c'est, hein, c'est ça, je ne me rappelle plus.
Parce que la merguez, ça pique, alors que la chipot, c'est plus doux.
Voilà. Ma chipot, c'est en national, le FC Martigues, qui est pas loin de chez moi, donc. Qui joue encore une fois cette année l'accession en Ligue 2. Donc là, actuellement, ils sont seconds. Ils peuvent monter directement, puisque c'est les deux premiers nationales qui vont monter, en Ligue 2. Donc, il reste trois matchs et ils sont seconds. Donc, ce sera ma chipo de cette émission. J'espère, je croise les doigts pour que le FC Martigues retrouve la Ligue 2.
Je pensais que, oh putain, mais en fait, oui, Niort s'est complètement effondré. Parce que je le voyais.
Et ils se sont fait battre par Martigues, là, sur le dernier match.
Ils avaient été battus par Sochaux, ils se sont rebattus par Martigues, ouais, effectivement.
Sachant qu'il y a déjà une place de prise avec le Red Star. Qui,
Red Star champion avec Habib Bey, ouais.
Oui, il réfléchit encore, suivant les projets qui vont arriver. Je crois qu'il va peut-être rencontrer les dirigeants marseillais. ça se... Il y a Fonseca aussi, apparemment. Après, est-ce que Fonseca acceptera Fonseca, de partir de Lille, où tu peux quand même travailler de manière assez sereine? Marseille, c'est autre chose, bébé.
Ouais, malheureusement.
C'est vrai que faut quand même. Je pense que c'est quand même l'endroit le plus compliqué. Même Paris, je pense que pourtant, on est des bons gros cassos aussi au niveau direction. Même si ça va un peu mieux en ce moment, t'as l'impression que c'est beaucoup plus serein. J'aime bien quand tu gagnes, c'est plus serein en général. Marseille, c'est quand même c'est quand même délicat. Hein. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Hein.
Ouais. Toujours.
Mais bon, c'est
Toujours. Il
faut un minimum d'exigence aussi. Donc, on connaît le côté un peu excessif des supporters marseillais, mais c'est aussi un public de connaisseurs où les mecs, tu les as habitués à avoir du beau jeu ou ce genre de choses. C'est des supporters, mais les mecs, ça fait 50 ou 60 ans qu'ils sont dans le stade. Hein, donc tu leur fais pas à l'envers. Et toi, mon Carlos, à part l'Auxerre qui monte en Ligue 1, c'est quoi tes chipots?
On est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Voilà. C'est ma chipot.
Et l'an prochain, il dira on est en Ligue 2, on est en Ligue 2.
Et ma deuxième chipot, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir. Alors, si vous arrivez à regarder ça sur des canaux normaux, bonne chance à vous. Il va y avoir le derby de Hambourg entre le HSV et le St Pauli. St Pauli qui, s'il gagne, va monter en première division de Bundesliga. Donc, sincèrement, ça va être aussi, je pense, un petit moment, une petite chose à aller voir. C'est aller voir la deuxième division allemande.
C'est le foot romantique,
voilà, exactement,
ouais,
c'est
l'aime.
Le foot romantique.
Mais oui.
Aller St Pauli, on peut dire aussi, hein, parce que et tous un peu de son problème. Bah oui,
bah ouais, bien sûr.
Exactement. Donc,
ça dépend. Si tu es un fasciste nazi, non.
Exactement. si tu es parisien ou lyonnais, tu peux supporter.
Non, monsieur, là, je ne vous autorise pas à dire ça. Nous, on a fait le ménage en nos stades.
Bon, si tu es un bad gun, tu voilà. peux. Tu
Nous,
as le
on
droit.
A fait le ménage. Bon, il a fallu des morts, mais on a fait le ménage.
Ne pas oublier
que le plan Le Prou, hein. C'est dissolution de tous les groupes de supporters. Alors, imaginez un truc comme ça du côté de Marseille, pour rigoler. Et après, c'est même pour les Japonais, placement aléatoire dans l'un des deux virages. Donc, si tu étais à Auteuil, tu pouvais te retrouver à Boulogne. Si tu prenais trois abonnements, pour être sûr d'être avec des gens que tu connais, le quatrième était envoyé en aléatoire, n'était plus à côté des trois autres. C'était ça pendant 6 ans, hein, le plan Le Prou. Donc, ne jamais oublier ça. C'est finalement la réintroduction tranquille du CUP.
Supporter Auxerre, vous serez plus tranquille, et supporter aussi St Pauli, ça fait toujours plaisir.
Même si, bon, je suis sûr que du côté d'Auxerre, tu peux encore entendre certains cris d'oiseaux ou de singes ou ce genre de trucs, parce
que
nos régions ont du talent.
On a découvert l'électricité il n'y a pas très longtemps, hein, je vous rappelle. Hein, donc, ça ne fait pas très très longtemps.
Ils ont eu des fils qui se touchent.
L'eau courante est...
oh putain.
On peut avoir des choses qui s'appellent télévision, c'est pas vrai. Donc, et sans la TNT, hein, vous imaginez pas.
On embrasse tous les bons.
Oui,
ça.
Suis,
oui,
donc,
bien sûr.
Moi, je suis un digne représentant du Front de Libération de la Bourgogne. Parce que la Bourgogne doit être indépendante.
Et du FC
Guignon. Qui va se maintenir en National 3.
Tout à fait.
Et comme dit Mehdi,
bravo,
force à la GIA.
Oui, bon, on fait d'ailleurs un coucou à Buenas, à Calcio, Mehdi, qui nous fait un petit coucou. On ne le dira jamais assez. Allez écouter si vous êtes amoureux de la Serie A. D'ailleurs, à la limite, si un jour, pourquoi pas la semaine prochaine, hein, Mehdi, si tu veux venir débriefer le Marseille-Atalanta et nous offrir tes lumières sur le match retour, tu seras effectivement le bienvenu. Moi, j'ai quand même ma petite chipot. Ah ben, champion, mon frère. Et quand même.
Ah oui.
Ah bah ouais, oh, ben ouais. La 12e, 13e, hein, on n'oublie pas que le titre de 93, il est pour nous, hein, parce que les gens de Canal+, ont refait l'histoire. Hein. Les gens de Canal+, n'ont pas voulu froisser leurs abonnés marseillais et ont donc refusé le titre. Donc voilà, Donc normalement, on en a 13.
Ah, mais hein, on a un 13. Invité qui vient, un podcasteur mondialement connu sur la scène française, et tu lui ressors ça.
Et il me sort ça.
Mais c'est pas possible.
À moi.
En tant que Parisien pur beurre, ou du moins Francilien pur beurre, je n'ai aucune dignité. Et sinon, ouais, si supporter parisien, si vous n'avez pas vu le petit film d'une quarantaine de minutes sur le quart de finale retour de le petit film RMC qu'ils font à chaque fois, vraiment très sympa à regarder. Bon, ça, des fois, ça vire un peu dans le pathos hein, quand ça vient parler de la fille de Luis Enrique et de son décès prématuré à cause d'un cancer foudroyant des os, qui pour expliquer aussi le parcours du bonhomme, tout du moins avec son passage justement du côté du Barça et finalement il retrace un petit peu sa carrière. C'est quand même un bon souvenir. Espérons que le film des demi-finales soit aussi sympa. On n'a pas donné la chipo merguez de l'OGCRM, hein, vu qu'il est là tous les lundis, on lui donne aussi. Donc lui, sa chipo, c'est forcément Gay qui donne la victoire à l'OM. Merguez, la fin de Klopp bientôt en direct sur RMC Sport combat, hein, avec apparemment où il y a eu, j'ai pas forcément vu, mais avec Salah, ça s'est un petit peu frité. Dommage que ça finisse comme ça. C'est vrai que Salah était sur le banc. Samedi. Donc apparemment
ça fait plusieurs matchs.
Ouais, bah je pense qu'il doit pas être satisfait et que peut-être que lui aussi commence à préparer un peu la saison prochaine, sachant que maintenant c'est décroché, que Liverpool est en Ligue des Champions parce qu'ils finiront top 4 forcément. Lui commence aussi à faire jouer un peu plus les jeunes, les Elliott, etc. Donc est-ce que ça là va...
Peut-on dire que Klopp n'apprécie peut-être plus le profil de l'Égyptien. Ouais. Égyptien, profil.
Oui, non, on a. Pardon. Ah, je valide. Moi, j'ai blague en mousse, j'aime. Donc, moi, je valide toujours. Ouais, dommage que ça fasse un peu comme
il
ça.
Est
je
tard.
Sais plus si Salah n'est pas en fin de contrat en plus, ou s'il lui reste un an. Donc. Voilà, je pense que le nouveau cycle.
On peut dire que c'est pas un bon copain parce que c'est un sale ami en tout cas.
Oh là 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 là.
Bon, je pense qu'on n'ira pas plus loin.
Il est temps d'arrêter.
Le match.
Juste, je peux finir sur une dernière note ou pas ?
Allez.
Les papapoules que j'anime en tant que hôte de ce podcast sur la parentalité, le prochain épisode sera consacré au sexisme dans le sport. À 90 jours à peu près du lancement des JO, on va faire un super sujet avec des expertes, notamment une journaliste qui a travaillé avec l'OM, avec Provence Rugby, sur les sujets du sexisme dans le sport. Et c'est un épisode qui sera normalement assez passionnant, qui va sortir début mai.
Bah, cool, ça. Cool.
Voilà.
Ouais, bah, écoutez.
Mais mon Carlos.
Ouais.
Ah non, mais j'aime bien leur émission, il le sait, notre cher invité. Non, mais en plus, on en avait parlé une fois et tu m'avais dit que ça devait se monter, mais ça prenait du temps. Enfin, quelque part, il fallait inviter les faire correspondre les plannings et tout. Et hâte d'écouter cette émission-là.
Yes, merci.
Donc, en parlant foot, allez regarder le prochain SoFoot. Un joueur sur 10 en Europe est issu de la région. De France.
Ah oui, c'est vrai ça.
Oui, c'est possible, hein, parce qu'on sait que avec la région de Sao Paulo, la région Île-de-France est la plus grosse pourvoyeuse de joueurs de football, on va dire peut-être dans le monde. J'aurais envie de dire dans le monde, mais tout du moins qui s'exporte assez bien.
En tout cas, en Europe.
En tout cas, ouais. C'est le plus grand vivier européen, comme le dit OGCRM. Bon, messieurs, 1h35.
Ouais.
On a même eu 5 minutes d'arrêt de jeu. Je pense qu'on est pas mal. Allez, nos clubs français pour ce milieu de semaine. Et à voir si on fait un débrief de à chaud du Paris Saint-Germain ou pas. Pourquoi pas. On peut faire jeudi soir pour débriefer rapidement les deux matchs. Comme ça, ça sera pas mal. Ou alors, si les deux clubs perdent, on attendra lundi prochain pour se déchaîner. On vous tiendra au courant sur les réseaux. Eh ben, messieurs, bonne soirée.
Bonne soirée. À la prochaine.
Bonne soirée. Merci.
Et n'oubliez pas, champion mon frère.